France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La célèbre librairie Chan du boulevard Montparnasse, qui aura été l'un des hauts lieux de la vie artistique et littéraire parisienne du XXe siècle, avait été fondée par Louis Chan et Marie-Louise Castex à la fin des années 20. Après eux, ce fut tout naturellement leur fille Marie-Madeleine qui reprit l'affaire familiale, devenue au fil des années une véritable institution. Marie-Madeleine Chan, disparue en 2014, on pouvait l'entendre en 1988 raconter à Laure Adler comment elle était devenue libraire, comment elle concevait et vivait au quotidien cette profession. C'était dans le deuxième épisode d'une série que Les Nuits Magnétiques consacrait au métier de libraire. Outre certains de ses confrères de Paris et de province, on entendait dans cette même émission l'éditeur Christian Bourgois et aussi Jérôme Lindon, aux côtés duquel Marie-Madeleine Chan avait ardemment milité dès les années 70 pour que voie le jour une loi imposant partout en France le prix unique du livre. Nuit Magnétique, Les Libraires, deuxième des quatre épisodes, La vie de libraire, diffusée la première fois le 20 avril 1988 sur France Culture.
Nuit Magnétique, bonsoir. Avez-vous lu dans La vie des termites ceci, que les termites n'aiment tant rien que de se promener autour de la reine énorme, de la caresser, de la lécher et de lui enlever de petits morceaux de chair. La littérature, notre âme exprimée, notre âme dans ses mots en nos pouvoirs, nous au pouvoir des mots, est une reine des termites. Ce n'est pas être heureux que de l'approcher, c'est une manière d'avancement. Nuit Magnétique, toute cette semaine, les libraires. Que de jeunes filles, que de femmes m'ont enviée, ont rêvé de mon sort, dite Adrienne Monnier. Elles ont presque toujours été découragées au bout de peu de temps. Elles ont vu qu'il ne s'agissait pas simplement de faire salon, mais qu'il y avait un gros boulot, un tas de corvées. Nuit Magnétique, les libraires ou le désir de faire vivre les livres. Les libraires, les maîtres de ces lieux qu'on en appelle des librairies et où, quand on est jeune, on n'entre pas impunément, mais le cœur battant, les mains moites, le cerveau en ébullition. Le libraire comme maître du destin. De lui peut dépendre votre vie. Je veux dire, la perception que vous aurez de la vie. À 16 ans, prononcer un nom à voix haute chez le libraire touche au drame, se souvient Michel Cournot, qui eut justement pour libraire Adrienne Monnier. C'est plus qu'un vote, plus qu'un manifeste. Quand il poussa la porte, les joues en feu, il avait sur la question des idées nettes. Il dit « Je voudrais mal d'aurore ». Les yeux dans les yeux, et c'était comme s'il eût dit « Racine, je t'emmerde, et vous aussi, mademoiselle, pendant que j'y suis ». Mademoiselle ne broncha pas devant cet extrémiste, prit mal d'aurore sur l'étagère, calme comme une boulangère prenant un paquet de levure, appuya le doigt sur ses lunettes, examina l'exemplaire sur toutes les coutures, demanda 5 minutes pour l'empaqueter, plaça le paquet sur la table, mit ses yeux bleus dans le visage du garçon, des yeux qui disaient « Il faudrait peut-être songer à vous remettre. Jusqu'ici, voyez-vous, la chose s'est bien passée. » Nuit Magnétique, toute cette semaine, les libraires. Jean Couturier, Laure Adler. Hier, qu'est-ce qu'un libraire? Avec notamment les souvenirs de Max-Philippe Delattre. Ce soir, suite de notre périple dans les librairies, découverte d'un métier qu'on peut commencer peut-être par hasard, mais qu'on ne peut continuer que par passion. Voyage à l'intérieur de plusieurs librairies, désir secret d'être enfermé seul, la nuit, dans ces boutiques, au milieu des livres exposés, des livres empilés, des livres rangés, des exemplaires numérotés, des livres empaquetés, des livres tout frais, des livres pas encore écornés, des livres non coupés, des livres pas encore violés, tous m'appartiendraient. Les libraires, numéro 2. Pierre Pin.
Nous avons vu ici des enfants qui venaient dans les placards qui sont à leur taille chercher des livres de contes ou feuilleter des bandes dessinées pendant que les parents choisissaient autre chose. Et ces enfants ont vieilli, ces enfants ont maintenant des enfants parce que ces enfants sont devenus des femmes et ont eu des enfants. Et que on est passé de la bande dessinée à quelque chose de tout à fait différent. Alors bien sûr, il y a les parents, bien sûr, il y a les enseignants, il y a les rencontres, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui sont arrivés, qui nous ont dit quelquefois que grâce à la librairie et aux livres qui étaient dans cette librairie, ils avaient peut-être fait un certain parcours.
Pourquoi des libraires en ces temps de misère? Parce qu'un libraire, c'est quelqu'un qui lit, qui pense que la fonction de lire est une fonction vitale. Bernard Guillemot, libraire à Quimper.
Et puis peut-être aussi le fait que lire fasse entrer dans d'autres livres. Il y a une espèce d'échelle qui fait que en ouvrant un livre, finalement, croyant trouver telle chose, on a affaire à telle autre. Et puis on rentre dedans, et puis on s'y prend, et puis on ouvre notre porte, ainsi de suite. Je pense toujours à la bibliothèque de Joubert, qui lui, dans les ouvrages qu'il lisait, il arrachait des pages inutiles. Voilà, il restait donc les couvertures flottantes à l'intérieur, il y avait 2, 3, 4 pages. Ben, peut-être qu'à la nature, c'est ça. Parce qu'en fait, lire, en fait, c'est quoi? C'est relire, évidemment, quoi. Parce qu'un livre lu, c'est rien, quoi. Ce qui compte, c'est le livre que l'on relit. Et évidemment, le jour où on relit autre chose, quoi. Et puis là, je citais, c'est cette belle phrase de Gracq qui justement disait que toute la gloire de Mallarmé venait du fait qu'il y avait 50 personnes prêtes à se faire tuer pour lui. Eh bien, je crois que c'est ça, c'est la lecture, c'est ça. Et donc lire, en fait, c'est ça, quoi. C'est aussi, lire, c'est aussi mourir, quoi.
Georges Dupré, libraire depuis la guerre, actuellement libraire de la Une à Saint-Germain-des-Prés.
Je travaille dans la librairie, mais je ne passe pas mon temps à lire dans la librairie. Je ne lis pas. Je règle la circulation, c'est-à-dire l'étiage, la bonne hauteur, la régulation. Des tas de livres, des livres à venir, des livres à éliminer. Il y en a quelques-uns aussi, de temps en temps. Tout ça, la gestion quotidienne, les problèmes du personnel, etc. Petites histoires, on parle des petites histoires de chacun, mais disons les problèmes d'horaire et tout ça. Enfin, il y a plein d'activités, bon, disons, l'accueil des représentants, Les auteurs aussi.
Un libraire, c'est quelqu'un qui manipule toute la journée des objets qu'on appelle des livres, du déballage du carton à l'exposition, puis à la vente. Qu'est-ce donc un livre pour un libraire ?
Il y a une manière de toucher des livres ?
Oui, puis de les sentir aussi, de les respirer. Je crois que c'est un geste qu'on apprend peut-être à l'école, c'est avec les livres de classe, mais ça continue. C'est-à-dire
Françoise Sorel.
Chaque papier a une odeur différente, chaque encre aussi. Et c'est vrai que moi, je sais que je les respire toujours. C'est vraiment un... Il y a des livres qui sentent bons, puis d'autres qui sentent mauvais. Et puis, il y a des livres qui sont beaux et il y a des livres laids. Et je trouve que les livres sont souvent assez laids. Maintenant, mal finis, mal brochés, enfin, collés n'importe comment. Et là, quelquefois, c'est vrai que je trouve que les livres sont chers. Quand un livre est... matériellement mal fait. Je trouve ça scandaleux. C'est aussi un objet qu'on a envie de conserver quand on l'a aimé. Et c'est... Quand les gens rapportent un livre qui s'est débroché ou les gens sont furieux. Et ont raison. Enfin, ils ont l'impression d'avoir été volés ou... Et que la qualité d'un livre, c'est pas seulement son... Le contenu, c'est aussi tout l'emballage qui est important. Là, je trouve que les éditeurs devraient faire un effort. C'est un peu de respect pour le libraire et pour le lecteur.
Bernard Wallet, directeur commercial des éditions de Noël, ex-libraire.
Un libraire, c'est normalement quelqu'un qui est en rapport avec l'éditeur au départ et avec le client en bout de chaîne, c'est-à-dire c'est normalement celui que nous, les éditeurs, on essaie par toute force d'essayer de joindre. Et toute la difficulté du travail de l'éditeur, c'est de savoir qu'on a publié un bouquin qui normalement devrait rencontrer son public, parce qu'on s'aperçoit que quelques livres qu'on fasse, genre même le plus mauvais, il rencontre un public, donc je veux dire, ce public existe. Non mais c'est quand même un truc étonnant ça. Et en fin de compte, tout le problème de... Enfin, le relais indispensable, et malgré toutes les tentatives qui peuvent exister, je veux dire, le relais indispensable entre le lecteur et l'éditeur, c'est le libraire. Je veux dire, c'est un relais, c'est quelqu'un qui fait exister quelque chose qui a d'abord été sous une forme de manuscrit, puis ensuite imprimé, puis ensuite corrigé, puis il y a eu des idées de couverture, etc. Mais c'est-à-dire que le seul qui a l'autorité et puis la compétence et puis normalement et puis l'intelligence de le diffuser, c'est le libraire. Et donc d'où leur rôle primordial quoi dans la relation entre ce couple infernal qu'est l'éditeur et son lecteur et l'auteur bien entendu qui est là présent.
Catherine Martinzé, libraire à Orléans.
Le vrai travail du libraire, celui en tout cas qui est le plus, je dirais, le plus intéressant, c'est de découvrir un auteur absolument inconnu, d'aimer. Je veux dire, le libraire trouve aussi son propre bonheur dans son travail, le lire, l'aimer.
Le faire venir.
Se dire, ça va être pour un tel, certainement ça va plaire à tel ou tel client, et se dire, est-ce qu'il va venir ? Parce qu'il n'est pas sûr non plus que les auteurs aiment venir dans les librairies. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une peur de part et d'autre. Il y a une peur de la part des gens, très souvent, à être face à face avec des auteurs. Et il y a des gens qui n'aiment pas du tout, qui sont des lecteurs merveilleux, qui sont ceux qui achètent le plus grand nombre de livres, mais qui redoutent un peu la rencontre, parce que c'est quand même quelque chose de très intime, où ils pensent que ça sera très intime. Et du côté des auteurs, c'est la même chose, c'est-à-dire que rencontrer le lecteur, je crois que c'est le souhait secret des auteurs, mais en même temps, il y a une espèce de timidité. Et je crois qu'au moment où on propose la rencontre avec un écrivain, Il faut dire quel est le projet du libraire. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on fait venir un auteur ?
Vous écoutez Nuit Magnétique, les libraires. Ce soir, numéro 2, la vie des libraires. Un libraire vend des livres que des auteurs ont écrits pour qu'ils puissent être lus. Pour pouvoir être lus, il faut qu'ils soient vus dans des librairies. Que se passe-t-il quand un auteur entre dans une librairie ?
Dans la vitrine de la librairie, tu as aussitôt repéré la couverture et le titre que tu cherchais. Sur la trace de ce repère visuel, tu t'es aussitôt frayé chemin dans la boutique, sous le tir de barrage nourri des livres que tu n'as pas lus, qui sur les tables et les rayons te jetaient des regards noirs pour t'intimider. Mais tu sais que tu ne dois pas te laisser impressionner. Que sur des hectares et des hectares s'étendent les livres que tu peux te passer de lire, les livres faits pour d'autres usages que la lecture, les livres qu'on a déjà lus sans avoir besoin de les ouvrir parce qu'ils appartiennent à la catégorie du déjà lu avant même d'avoir été écrit. Tu franchis donc la première rangée de murailles. Mais voilà que te tombe dessus l'infanterie des livres que tu lirais volontiers si tu avais plusieurs vies à vivre. Mais malheureusement, les jours qui te restent à vivre sont ce qu'ils sont. Tu les escalades rapidement et tu fends la phalange des livres que tu as l'intention de lire. Mais il faudrait d'abord en lire d'autres. Des livres trop chers que tu achèteras quand ils seront revendus à moitié prix. Des livres idem, voire ci-dessus, quand ils seront repris en poche. Des livres que tu pourrais demander à quelqu'un de te prêter. Des livres que tout le monde a lus, et c'est donc comme si tu les avais lus toi-même. Esquivant leurs assauts, tu te retrouves sous les tours du fortin, face aux efforts d'interception des livres que depuis longtemps tu as l'intention de lire. Des livres que tu as cherchés des années sans les trouver. Des livres qui concernent justement un sujet qui t'intéresse en ce moment. Des livres que tu vas avoir à ta portée en toutes circonstances. Des livres que tu pourrais mettre de côté pour les lire, peut-être cet été. Des livres dont tu as besoin pour les aligner avec d'autres, sur un rayonnage. Des livres qui t'inspirent une curiosité soudaine, frénétique et peu justifiable. Bon, tu as au moins réussi à réduire l'effectif illimité des forces adverses, un ensemble considérable, certes, mais cependant calculable, d'éléments en nombre fini, même si ce relatif soulagement est mis en péril par les embuscades des livres que tu as lus il y a si longtemps qu'il serait temps de les relire, et des livres que tu as toujours fait semblant d'avoir lus et qu'il faudrait aujourd'hui te décider à lire pour de bon. Tu te libères en quelques zigzags et pénètres d'un bond dans la citadelle des nouveautés dont l'auteur ou le sujet t'attire. Une fois dans la place, tu peux pratiquer des brèches entre les rangées des défenseurs. Tu les divises en nouveautés d'auteurs ou de sujets déjà connus, de toi, dans l'absolu, et nouveautés d'auteurs ou de sujets totalement inconnus, pour toi du moins. Et tu répartis l'attraction qu'ils exercent sur toi selon le besoin ou le désir que tu as de nouveautés ou de non-nouveautés. De nouveautés dans le non-nouveau et de non-nouveau dans le nouveau. Tout cela pour dire qu'après avoir parcouru rapidement du regard les titres des livres exposés, tu as dirigé tes pas vers une pile de « Si par une nuit d'hiver, un voyageur, tout frais sorti de chez l'imprimeur ». Tu as saisi un exemplaire et tu l'as porté à la caisse pour qu'on établisse ton droit de propriété sur lui. En passant, tu as jeté aux livres alentours un regard douloureux. Mieux, ce sont les livres qui te regardent de cet air douloureux qu'ont les chiens quand ils voient du fond des cages d'un chenil municipal l'un des leurs s'éloignait, tenu en laisse par son maître venu le reprendre. Et tu es sorti. Thank you.
Chaque soir, tout au long de cette série, des histoires, des portraits. Portrait maintenant d'une star modeste, trop modeste. Elle est si douce, si gentille et si cultivée. Elle aime tant les livres. Portrait d'une reine de la librairie, Marie-Madeleine Chan.
Alors nous sommes dans votre librairie, une des meilleures de Paris.
Oui, oui. C'est beaucoup de dire, c'est ce que les gens disent, mais moi je ne trouve pas la meilleure du tout. Je ne trouve pas que je sois la meilleure.
Il y a toujours meilleur que soi.
Oui, c'est ça.
Et comment ça a commencé cette histoire ?
Ah, cette librairie, j'ai pas choisi finalement cette librairie, c'est mon père qui l'a créée en 1928. Et bon, bah, j'ai continué comme ça.
Et vous avez des souvenirs de votre père ici, dans cette librairie ?
Oui, j'ai des souvenirs de mon père, à savoir une édition de Huido Bro qui s'appelle Le Tremblement de cœur. Et puis c'est tout. Il y a les cahiers sagesse qu'il diffusait. Nous n'en avons plus un seul, nous, c'est très recherché. Et tout ce qui reste, c'est Huido Bro et quelques livres dédicacés.
Alors quand vous étiez petite fille, vous veniez passer...
De temps en temps, je ne vivais pas ici, non. Je vivais à la campagne, moi. Puis après, ça a été la guerre, ça a été le trou noir total. Et après, bon, ben, on s'y est remis. J'avais ma sœur qui était là aussi. On a travaillé, ma mère, toutes les trois.
Et quelle image vous renvoyez votre père de libraire ? Pourquoi il était devenu libraire, lui ?
Ah là, lui, par goût, alors. Vraiment par goût. C'était une librairie plus... c'était l'époque des surréalistes, etc. Donc, plus... disons, moins classique que celle qui existe maintenant. Un peu folle, un peu, finalement. Plus vivante, je crois.
C'est-à-dire que votre père était ami avec les écrivains, ah, avec le cercle des
écrivains, oui. Bah, il était très ami de Céline, je dois dire. Je suis pas... Quoi qu'on... Bien que je ne sois pas tout à fait d'accord, moi, mais très ami de Céline. Il était... s'était enthousiasmé pour... Le voyage au bout de la nuit, quand il est sorti, par exemple. Et il l'a soutenu envers et contre tout. J'ai eu envie de continuer. Vraiment, de continuer, d'en faire quelque chose, vous voyez.
Et comment avez-vous appris ?
Comme ça, sur le terrain. J'ai pas suivi de cours, rien. C'est venu comme ça, par osmose, finalement. Je crois qu'au départ, il faut aimer les livres. Et puis, bon, la gestion, ben, on l'apprend aussi à ses dépens, on l'apprend... Bien sûr, il faut avoir quelqu'un, un comptable, un expert comptable qui quand même rétablit un peu, qui vous donne quelques conseils, et puis le reste, ça se passe tout seul, quoi. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Avec quand même une base de départ, puisque ça existait, j'ai pas eu les problèmes de création. Il fallait le maintenir, et c'est tout. Alors, bien sûr, j'avais des amis, j'avais ma sœur, ma mère quand même, qui avait gardé un sens de ce qu'il fallait faire. Donc,
ça s'est fait tout doucement.
Tout doucement. Tout doucement, non. Assez durement quand même, parce que à partir, il y a toujours des problèmes d'argent, etc. Il fallait donc voir par quels moyens on pouvait entretenir un stock, etc. Parce que bon, on n'avait pas de fortune, il n'y avait rien derrière. Donc, un stock, petit à petit, ça se crée.
Mais vous aviez un fonds.
Oui, il y avait un fonds, mais il fallait le conserver. Ça qui est difficile.
Pourquoi ? Parce que les livres arrivent.
Ah ben parce que vous avez certains livres qui se vendent une fois par an. Donc, il faut les payer, ces livres, et les garder, et attendre qu'un client l'achète, et se dire, est-ce qu'on le recommande ? Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce qu'il faut qu'on l'ait toujours en stock ou pas ? Enfin, c'est une question d'argent, ça.
Parce qu'un livre en chasse toujours un autre.
En ce moment, oui. Il y a quelques années, il y a 20 ans, c'était quand même beaucoup moins. En ce moment, oui, un livre en chasse un autre. C'est pourquoi c'est très dur. Il faut se cramponner pour... garder une base de littérature qu'on estime devoir être à la portée de n'importe qui veut, ne serait-ce que la feuilleter, la regarder, je ne dis pas l'acheter, moi la feuilleter.
Pierre Pin est, comme Marie-Madeleine Chan, de la vieille école, celle qu'il défend la librairie pure et le métier de découvreur. L'apprentissage du métier, avant, cela existait. Pierre Pin.
À l'époque, il y avait au Cercle de la librairie un enseignement professionnel que j'ai suivi. C'était fait par des libraires, par des gens qui faisaient ça comme ça pour essayer d'apporter quelque chose. C'était sanctionné par un diplôme. Ça n'avait aucune valeur au plan de l'éducation nationale, mais enfin, c'était tout de même une espèce de formation. Et puis ensuite, il y a eu le sur le tas, on peut dire. Et puis la vie, les rencontres avec les éditeurs, les écrivains. C'était une époque où les éditeurs étaient... c'était une époque où il n'y avait pas, ou très peu, le masque du distributeur, qui est vraiment la pire chose qui existe et que... Et ça, alors vraiment, je crois que c'est affreux, parce que, à l'inverse de ce que le libraire essaie de faire vis-à-vis du lecteur, le distributeur, je viens de dire le masque, est quelqu'un qui nous coupe totalement des éditeurs, c'est-à-dire des gens qui vont être un jour choisis, et ceci entraîne vraiment quelque chose de très grave, me semble-t-il, pour la nouvelle génération, c'est-à-dire l'impossibilité d'avoir un contact autre qu'un contact comptable. C'est-à-dire qu'en dehors des aspects purement économiques, plus rien n'existe. C'est-à-dire, en fin de compte, des organismes qui ne s'occupent plus que d'affaires comptables, d'affaires économiques. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce que tout ce qui faisait le plaisir du livre, mais aussi quelque chose de plus que je peux mal définir, qui était ce rapport humain, est en train de totalement disparaître, n'est-ce pas? L'informatique, c'est bien, mais il faut savoir s'en servir. Et je peux vous dire, alors ça je le proclame, que je suis furieux, que je suis en colère depuis 4 jours, parce que j'ai reçu du centre de distribution du livre, le CDE, un document qui est quelque chose d'absolument incroyable, innommable. L'exemple très typique que je voudrais donner est celui de M. Elifort, auteur d'une histoire de l'art, qui se trouve dans 4 endroits différents. C'est-à-dire qu'un libraire, un jeune libraire qui voudrait entrer dans la profession, qui ne sait pas, c'est bien son droit de ne pas savoir encore qu'Elifort a été un des plus grands auteurs de critique artistique, a écrit un ouvrage en 5 volumes. Un éditeur comme De Noël, qui a publié ce livre, va se trouver par son distributeur pénalisé parce que on a l'impression qu'il y a 3 tomes qui n'existent plus, puisqu'on ne trouve plus qu'un. Enfin, qu'on ait eu le culot, n'est-ce pas, de publier ce document en utilisant l'ordre alphabétique par les titres. Car j'insiste beaucoup parce que ça n'est pas seulement là, ça s'est déjà fait, n'est-ce pas? L'informatique par les titres, ça doit être plus commode pour la distribution du livre. Mais voulez-vous penser qu'à partir de cet instant, un auteur qui est l'auteur de 10 ouvrages va être placé à 10 pages différentes?
Les éditeurs sont les partenaires obligés des libraires. Certains, paraît-il, disent les libraires, les ignorent, voire même les méprisent. Ce n'est pas le cas de Jérôme Lindon, directeur des éditions de Minuit.
Quand on compare notamment les libraires, d'une part justement aux gens de la presse, d'autre part aux éditeurs, on s'aperçoit qu'ils ont un métier que je considère comme au moins aussi difficile, sinon plus que ça, et beaucoup plus divers, et beaucoup moins... plus mal rémunérés, quoi, de tous les points de vue, pas seulement du point de vue financier, mais aussi sur le plan des gratifications symboliques. La plupart des clients des librairies, peut-être parce qu'ils ne fréquentent pas toujours de bonnes librairies, mais enfin, peu importe, même ceux qui fréquentent de bonnes librairies ne se rendent pas compte que le libraire n'est pas un simple commerçant, mais qu'il joue un rôle vraiment très actif dans le domaine de la diffusion de la pensée ou de la littérature. Nous avons, tous les jours, nous constatons ici combien l'existence d'un libraire, même d'un tout petit libraire dans une ville relativement importante, peut complètement changer les données pour la ville en question. Enfin, tel petit libraire dans une ville de 100 000 habitants qui s'installe même dans 40 mètres carrés dans une rue peu passante joue, de mon point de vue d'éditeur, un rôle infiniment plus important que la plupart des bibliothécaires ou des directeurs de maisons de la culture dans le cadre du livre. Infiniment plus important. Et comme je vous l'ai dit, c'est un métier difficile et que très souvent ces difficultés financières empêchent le libraire de poursuivre son effort et quelquefois est obligé d'arrêter, eh bien, du jour au lendemain, le jour où la librairie ferme, on s'aperçoit qu'il y a toute une partie de la ville qui n'est plus en quelque sorte approvisionné et qui perd vite l'habitude de l'être, n'est-ce pas? Parce que comme ils ne trouvent pas sur place les livres qu'ils avaient l'habitude d'avoir, eh bien, ils en lisent d'autres ou ils ne lisent plus de livres. Peut-être que qui regardent plus la télévision, je n'en sais rien, mais ou qu'ils écoutent plus la radio, ce qui n'est peut-être pas forcément une mauvaise chose. Mais en tout cas, ils n'ont plus les livres qu'ils étaient habitués d'avoir et dont ils perdent vite l'habitude. Parce qu'à partir du moment où il n'y a personne pour les conseiller, leur montrer, c'est très important de montrer les livres, de les avoir, qu'on puisse les toucher. C'est pas du tout la même chose que de lire un article dans un journal où on vous dit, tiens, c'est un livre qui est très bien. Non, le livre est là, on peut le... Eh bien, je pourrais vous citer 20 expériences de ce genre dans des villes de province, ou même dans des grandes villes. Même à Paris, où il y a des quartiers qui ne sont plus du tout irrigués. À Paris, on peut prendre le métro et aller dans le centre ou dans le quartier latin, mais dans des villes, on ne va pas faire 300 km pour ça. Alors, c'est vrai que je considère, moi, que le libraire joue un rôle capital, mais absolument capital, non seulement dans la vie du livre, mais par là même dans la vie culturelle d'une nation. Et je parle de la librairie en tant que multitude d'entités indépendantes. Hein, c'est ça qui est important. Car la dimension de la librairie est une chose très capitale. Je sais bien qu'on ne peut pas envisager qu'il n'y ait que des petits libraires. Il y a aussi besoin de grands libraires et des libres-services dont je parlais tout à l'heure, qui jouent un rôle positif et nécessaire dans certains cas. Mais le rôle moteur, ça nous l'avons très souvent expérimenté dans une maison comme la nôtre, est joué par quelques dizaines, mettons, peut-être un peu plus de 100, je ne sais pas, mais je crois plutôt moins de 100, de libraires qui sont capables, je parle pour notre maison à nous, hein, c'est pas, le problème se pose peut-être pas de la même façon pour d'autres, qui sont capables en effet de faire cette chose inestimable qui consiste à faire lire le livre inconnu d'un auteur inconnu. Or, vous me direz que ce n'est pas la majorité des livres, mais en réalité, même si d'abord ce sont très nombreux ces livres-là, et d'autre part, c'est toujours comme ça que ça commence. S'il n'y a pas au début des gens pour faire en sorte que des auteurs inconnus commencent d'être lus, eh bien, les libres-services, par exemple, ne sont pas faits pour ça. Par définition, un libre-service, c'est un endroit où on va acheter le livre qu'on connaît déjà. Il y a peu de chances qu'on y fasse des découvertes. En tout cas, personne ne vous permet ne vous aide à les faire. On n'est pas là, ils ne sont pas là pour ça, les gens des libres services. Et donc, ce rôle est, à mon avis, tout à fait capital, parce que dans la vie de l'esprit, il est évident que le livre, aussi bien, je vous dis, le livre de recherche que le livre forme d'expression littéraire, jusqu'à nouvel ordre, on n'en a pas remplacé. En France, donc, il y a un réseau quantitativement très élevé, et il y a surtout, et je crois que c'est important de le dire, encore, je ne sais pas si ça se maintiendra encore longtemps, mais il faut l'espérer, encore des tas de... Enfin, il y a de nombreux libraires qui sont des gens prêts à prendre des risques non seulement financiers mais intellectuels, des risques qu'ils prennent tout seuls, n'est-ce pas, parce qu'ils n'ont personne pour les soutenir si ça loupe. Hein. Ils n'ont pas derrière eux ni de banque, ni d'associés, ni de quoi que ce soit. Ils font ce métier-là parce qu'ils l'aiment. C'est un métier, comme je l'ai dit, extrêmement difficile. Beaucoup d'entre eux ne s'en rendent pas toujours compte au moment où ils commencent, d'ailleurs. Mais enfin, d'autres le savent. Et je vous dis, ils sont, c'est une des choses qui m'a souvent choqué, dans une position bizarrement de dépendance symbolique à l'égard des éditeurs. Les éditeurs se considérant comme des sortes de suzerains dont les libraires seraient les vassaux. Or, pour moi, j'ai toujours pensé que c'était des métiers différents, en effet, mais que pour ce qui est de la qualité du travail, et, je connais beaucoup d'éditeurs et même de très haut placés dans leur maison qui n'ont pas du tout du niveau de certains libraires petits libraires que je connais. Quand je dis petit, c'est en chiffre d'affaires. Il va sans dire que pour moi, la notion de chiffre d'affaires n'est pas le critère par excellence. Et d'ailleurs, nous sommes une maison qui n'a pas un chiffre d'affaires bien élevé. Mais aux yeux d'un éditeur, ou plutôt d'un directeur commercial, parce que ce sont les directeurs commerciaux qui dirigent très souvent les maisons d'édition, et y compris le programme, souvent, de certaines maisons, aux yeux de ces directeurs commerciaux, il est évident que la seule, presque toujours, le seul critère qui compte, c'est le chiffre d'affaires. Et ça, alors, franchement, il peut arriver que de grands libraires soient de bons libraires, ça arrive aussi, hein, il ne faut pas dire le contraire non plus. Mais en tout cas, les deux hiérarchies ne coïncident pas.
Marie-Madeleine Chan.
Quand on voit arriver les gros paquets d'office, eh bien,
c'est des caisses.
Des cartons. Nous avons quand même une pré-information par les représentants, les listes que les éditeurs nous envoient, etc. Et quand on reçoit les paquets, on les ouvre et on regarde, on fait des fiches, on les inscrit sur un cahier, on regarde ce que c'est. Alors, en les feuilletant, on a une idée quand même de la qualité du livre, même si on ne connaît pas l'auteur. Si on connaît l'auteur, c'est autre chose. Si on ne le connaît pas, on feuillette.
Puis tout, on se dit, tout, tout.
Ah, on essaie. Et bon, ce pourquoi on n'a pas d'idée, on les met à part, on les range par ordre alphabétique en attendant. Et les autres, on les expose sur les comptoirs, en vitrine.
Qu'est-ce qu'un livre pour vous ?
Qu'est-ce qu'un livre ? Je dirais que c'est une communication. C'est aussi le plaisir de lire, mais c'est surtout une communication entre deux personnes, entre l'auteur et le lecteur.
Ici, à partir du moment où un livre anonyme arrive dans un carton, il va vivre plusieurs vies ici.
Il va commencer de le feuilleter. On va dire, ça peut être intéressant ou ça peut intéresser certains clients. Alors, on va le mettre, l'exposer sur le comptoir en vitrine. Ou alors, il va aller en rayon, aux nouveautés, à l'ordre alphabétique.
C'est dur, ça.
Non. Parce que le chemin peut être différent. Alors, au bout d'un certain... On regarde de temps en temps ce qu'il y a dans ces rayons pour voir ce qu'on peut enlever, évidemment. Et là, il y a une second passage, examen. Et on se dit, celui-là, il faut le garder, etc. Voilà. Mais vous savez, ça se fait... C'est pas... Ça a l'air organisé comme ça, mais non, ça se fait tout seul, finalement. Vous avez envie de voir telle chose, tout d'un coup, c'est instinctif, enfin. Pour moi, c'est instinctif.
Vous établissez des rapports quasi sensuels avec les livres ?
Oui, plus sentimental plutôt. Sentimental. Avec le livre et l'éditeur aussi. Et l'auteur, naturellement. Et là, bien sûr, il y a des côtés, certains éditeurs, pour lesquels je montre, montre le maximum d'ouvrages publiés. D'autres peut-être moins.
C'est-à-dire que vous considérez qu'être libraire, c'est aussi monter au créneau de l'éditeur pour pouvoir soutenir ce qu'il fait.
Absolument, absolument. Moi, parce que quand même, il fait un pas. Il fait le premier pas, lui. Et donc, ça me paraît normal de suivre. Et là aussi, il y a des affinités qui se créent.
Henri Kos, directeur commercial des éditions de Minuit.
Madame Chan se situe dans le classement Minuit dans les 20 premières, alors qu'elle n'est pas déjà dans les 20 premières, je pense, je n'ai pas en tête, mais de la diffusion ça, il y a encore moins de la diffusion Hachette. Donc on a des distorsions là très très fortes.
Donc à chaque type de livre, son libraire ?
Pas tout à fait, je dirais les libraires dits de masse, comme les FNAC, c'est vrai, sont fortes à peu près chez tous les éditeurs. Je pense que la Fnac Forum, en littérature, est première. Mais là, je ne parle pas au titre. Hein. Si je faisais une analyse au titre, attention, mais je parle parce que les éditions de Minuit ont certes des premiers romans, donc des titres pas prévendus, mais ils ont aussi le 1er octobre, il se vend X milliers d'En attendant Godot, c'est la rentrée des classes, ou de Moderato Cantabile. La rentrée universitaire du 15 novembre, il se vend Tant d'héritiers de Pierre Bourdieu. Donc là, il y a ce qu'on appelle des livres prévendus et prescrits. Il est certain que la FNAC est beaucoup plus forte qu'un petit libraire. De même que Joseph Gibert ou les PUF, ou de génération d'étudiants en étudiants, va acheter sa première année de lettres ou de sociaux, sont beaucoup plus forts. Donc, alors que Madame Chan, en effet, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que la statistique, en fin de compte, est totalement fausse, à mon avis, dans le chiffre d'affaires, enfin, dans l'analyse des chiffres d'affaires de libraire, c'est que Madame Chan, quand elle fait 100 francs avec les éditions de Minuit, ces 100 francs sont quasiment faits qu'avec des livres vendus un par un. Alors que tel autre libraire, quand il fait 200 francs, 300 francs, 1000 francs, il y a une part de livres prescrits. Encore une fois, il n'y a pas de honte, hein, mais c'est là un peu la différence. Et il est certain que plus on va vers des libraires de qualité, mais dont le chiffre peut être infime, même au niveau des éditions de Minuit, si j'étudie ce qu'il vend au titre, et ce que j'essaie de faire, même l'informatique le permet maintenant, c'est là où on voit les très grandes différences.
Il y a eu des années merveilleuses après, pendant quelques années après 68, ça a été absolument merveilleux. Et puis bon, c'est retombé ensuite avec la crise et le discount. Là, ça a été très dur, la FNAC, etc. Ça a été très angoissant. Bon, bien qu'on ait pu résister, on a résisté, ça a été très angoissant. C'est bien évident que les gens allaient acheter, ils ne voyaient pas loin, ils ne voyaient pas plus loin. Alors, un noyau de clients a compris quand même, comprenait. Ceci dit, même pour nous, c'était très gênant de penser que les gens venaient acheter des livres ici, 20% de plus, non, 10% de plus, puisque on faisait 10% à l'époque. 10% de plus, quand ils pouvaient l'avoir moins cher, dans cette optique très limitée, vous voyez. Et d'autre part, quand même, on perdait une clientèle de passage, etc. C'est évident. Donc, on a quand même besoin d'un peu d'argent pour vivre, serait-ce que payer les livres et les impôts. Mais bon, après, il y a eu le prix unique. Alors ça a été la grande joie, je dois te dire. Oui, ça a été la grande joie. Thank you.
Christian Bourgois, éditeur.
Et nous avons la chance en France d'avoir encore un réseau de libraires extrêmement fourni, de ces libraires qui lisent, qui connaissent les livres qu'ils ont, qui les aiment, qui les défendent, qui arrivent à faire, qui ont la confiance de leurs acheteurs, enfin tout ça. Bon, excusez-moi, c'est un peu des banalités, mais enfin, je crois qu'il faut qu'on répète ce réseau de libraires qu'on a failli perdre. Réseau de libraires qui existe encore grâce à la loi sur le prix unique, ce qu'il faut encore rappeler, puisqu'il vient d'y avoir un texte farfelu du ministère des Finances, d'économétristes distingués qui ont expliqué que la loi Lang avait empêché les éditeurs de la loi sur le prix unique de publier des livres. Donc ces libraires existent parce qu'ils n'ont, ils ne subissent, existent encore parce qu'ils ne subissent pas une concurrence qui était une concurrence anormale dans la mesure où elle s'est exercée dans des conditions économiques tout à fait critiquable, le livre servant dans les grandes surfaces de qu'on appelle de produits d'appel vendus au prix courant pour vendre en réalité d'autres produits et faire des bénéfices sur d'autres produits. Le problème de la FNAC étant tout à fait à part. Mais il existe maintenant dans les grandes surfaces, et je dirais paradoxalement, grâce à la loi sur le prix unique, qui a amené, dans un deuxième temps en tout cas, les responsables des chaînes de distribution moderne à s'intéresser davantage à leur rayon livre et à ne pas considérer leur rayon livre justement comme un rayon où on vendait des best-sellers à prix coûtant. Et il y a de fort bonnes librairies et donc de bons responsables de ces rayons. Alors est-ce qu'on peut les appeler libraires comme on peut appeler Monsieur Gerbrandt de La Une, enfin qui n'est plus à La Une, mais ou Monsieur Delatte qui n'est plus non plus dans sa, enfin qui n'est plus dans la même librairie. Est-ce qu'on peut les appeler des libraires au même titre que les deux personnes que je viens de citer? Peut se discuter, mais enfin, disons, il y a de fort bons responsables de rayons de livres dans les grandes surfaces. Bon, je reviens d'Angleterre où il y a des éditeurs exceptionnels, remarquables, exceptionnels. On est toujours plein d'admiration pour la qualité des livres qui sont publiés en Angleterre. Mais j'ai essayé d'acheter une biographie de Forster, comme vous le savez, un écrivain que j'aime beaucoup parce que j'ai à peu près tout publié de lui. Bon, c'est une biographie qui est pas chez un très grand éditeur anglais il y a quelques années, qui est Second Werber, qui était réédité dans Penguin. Je suis entré dans deux, trois très grandes librairies de Londres, j'ai jamais réussi à trouver un livre sur un grand écrivain anglais et un livre récent. Donc il y a certainement dans ces librairies, je pourrais dire la même chose probablement de librairies italiennes ou allemandes, dans ces librairies qu'on estime, qu'on admire beaucoup quand on y va, parce qu'on est frappé par le nombre de titres qu'il peut y avoir, la qualité des livres. En fait, ce sont souvent des livres très récents, et cette idée qu'il faut trouver, qu'on doit trouver dans les librairies les 20, 30, 40 000 titres qui permettent aux libraires de défendre vraiment un fonds de littérature française et des fonds de littérature étrangère, c'est quand même quelque chose de très spécifiquement français. Je ne parle pas de New York où les livres qui ont plus de quelques années ont complètement disparu des rayons des libraires. Je dirais d'ailleurs qu'ils ont en plus disparu des stocks des éditeurs. Et que moi, éditeur de policiers, j'ai de rééditeur de policiers, j'ai le plus grand mal à essayer de retrouver. Je dirais non seulement des policiers, mais par exemple essayer de trouver les livres de Sinclair Lewis que j'ai publiés dans 10-18, ils sont absolument introuvables à New York. Donc tout, bon, je fais ça a l'air un peu chauvin ce que je suis en train de dire maintenant, mais c'est vrai quand même que il y a quelques centaines de libraires en France ou de responsables de certains de rayons de livres étrangers ou de livres policiers ou de livres de littérature, de livres de sciences humaines dans les grandes librairies. Qui d'une certaine manière exerce encore une, bon, c'est un mot un peu, comme un peu prétentieux, enfin, un peu prétentieux, je vais employer, mais c'est vrai, l'idée quand même d'une certaine mission. Bon, je veux dire, en plus, bon, il faut bien vendre des livres, et les conditions de gestion, de fonctionnement des librairies sont extrêmement difficiles, et les libraires sont là pour acheter des livres aux éditeurs et pour les vendre avec profit, si possible, à leur clientèle, mais quand même, tous les très bons libraires qu'on rencontre, et qui sont d'ailleurs paradoxalement souvent ceux qui sont le plus avertis maintenant des problèmes de gestion moderne, des problèmes d'informatisation de leurs fonds, de leurs commandes, de leurs tours, etc., sont des libraires qui, comme je dirais, comme les éditeurs que j'admire ou que j'estime à Paris en ce moment, bon, sont des commerçants comme nous sommes des petits industriels, mais sont en même temps, sont différents. Moi, je crois que les libraires, de même qu'on a pu dire que il fallait appliquer le prix unique au livre parce que c'était pas un produit comme les autres, on peut dire que les libraires, les bons libraires, sont pas des commerçants comme les autres.
Ah.
Les répercussions de la loi sur le prix unique ont sauvé, semble-t-il objectivement, le réseau de librairies dites « pures » en France. Un grand découragement s'était auparavant abattu sur la profession et la loi Lang a revivifié le réseau et remonté le moral des libraires. Mais tout n'est pas réglé pour autant. Le point de vue de Marie-Madeleine Chan.
Et ça nous a redonné du courage, de l'optimisme, de une qualité finalement. Et pour l'instant, ça continue. Bien qu'il y ait des... malgré les problèmes économiques généraux, on est quand même satisfait des résultats. On a l'impression que beaucoup plus de gens, beaucoup plus de monde cherchent à lire, a envie de lire. C'est l'impression que j'ai. C'est ce que j'ai, ça doit être à contre-courant sûrement, je suis toujours à contre-courant, mais enfin, c'est l'impression, c'est une impression, à chercher, à savoir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'il faudrait lire, qu'est-ce qui pourrait nous distraire, enfin.
Qu'on achète plus facilement un livre qu'il y a 35 ans.
Facilement qu'il y a 35 ans, alors qu'il y a 35 ans, c'était réservé à un public limité. J'ai l'impression, hein. Tout ça c'est... En tout cas, moi je le vois, je suis assez optimiste. Bon, le problème des libraires, il est économique, il n'est pas manque de lecteurs finalement. Il y en a des lecteurs, ça. Même, bon, ne serait-ce que les livres de poche, toute la qualité des collections de poche maintenant, c'est à la portée de tout le monde. Et on a bien l'impression que... Le public le ressent, là, ressent cet état. Mais le problème des libraires, c'est autre chose. Le problème, les libraires ont des problèmes économiques comme les autres entreprises et ils ne sont pas armés. Ils n'ont pas les moyens, ils ne gagnent pas assez.
Je ne pense pas qu'il y ait trop de livres. Plus il y en a, mieux ça vaut. Ce qu'il faut simplement, c'est que les distributeurs, je les attaque de nouveau, ne soient pas ceux qui vont fabriquer des envois d'office alors que nous n'en avons pas besoin, qui ne respectent pas les contrats,
ça existe,
n'est-ce pas
là.
Ça existe.
Vous le constatez souvent dans votre métier.
Mais tous les confrères vous diront cela. L'édition obtient sa trésorerie, ou une grande partie de sa trésorerie, par les libraires et par les offices. Moi, je suis pour l'office parce que je crois qu'un libraire ne peut pas savoir ce qui se produit sans avoir la réception de l'office. Mais encore une fois, la distribution s'octroie des droits qui sont tout à fait disproportionnés avec ce qu'elle a réellement signé comme contrat avec le libraire. Et qu'est-ce que le libraire peut faire lorsqu'il a reçu le paquet ? Il l'a ouvert, ce paquet. Il a été obligé de le contrôler, de constater. Ensuite, il va le devoir. C'est-à-dire qu'il va donc travailler, n'est-ce pas, pour le roi de Prusse. Enfin, je crois que le livre a toujours été... Enfin, il y a toujours eu des quantités de livres, n'est-ce pas, qui étaient publiés. Et c'est au libraire de faire son choix et de faire des accords avec les distributeurs. Mais lorsqu'un distributeur qui est un distributeur de livres d'art. Par exemple, il y a quelque temps, un distributeur de livres d'art a fait un engagement avec je ne sais quel éditeur, si, Le Point Vétérinaire. Alors, brusquement, on a vu arriver, je vous assure, je ne plaisante pas, n'est-ce pas, on a vu arriver dans nos librairies, parce qu'on avait un accord général pour recevoir la production de ce distributeur, mais brusquement, ce distributeur est devenu le distributeur du Point Vétérinaire, qui est une chose tout à fait remarquable, avec lequel, d'ailleurs, il nous arrive de travailler, mais on n'a pas besoin de recevoir toutes les nouveautés du Point Vétérinaire, savoir tout sur l'escargot, si on n'a pas cette clientèle.
La distribution moderne a été de plus en plus capable de mieux vendre, de vendre très rapidement et de vendre au meilleur coût les ouvrages qui se vendent très bien, mais que paradoxalement, les ouvrages de vente lente, les ouvrages de fond, ont pâti de cette transformation de la distribution, de cette transformation de l'office. Et ça, il est certain que cette transformation de la distribution qui fait que les livres sont de plus en plus vendus comme de la presse, sont vendus en pile. Enfin, j'oppose toujours un peu comme là aussi comme une boutade les piles au rayon, je dis, et les coups au fond. Ben, il est certain qu'on est entré dans un système de piles. Ce qui demande d'ailleurs, je suis ravi quand je vois des tabouki en piles. Mais je veux dire, on entre dans un système de piles, on entre dans un système de linéaire en librairie, où le linéaire de l'un chasse les livres de l'autre. Il y a une beaucoup plus grande agressivité commerciale maintenant, et le livre est un produit dont l'existence est extrêmement brève, et où après quelques semaines et au mieux quelques mois, les livres, même qui ont été de bonne vente, qui ont une très bonne presse, dont on appelle à la télévision, dont on parle à la radio, dont on parle dans vos émissions, disparaissent des librairies. Alors, on dit que c'est parce qu'on publie trop de livres. Alors là, c'est aussi une banalité, que je combats depuis des années. Et on a mis un siècle pour retrouver le même nombre de titres publiés en France. Si j'en crois un article de Descarpit que j'ai lu il y a assez longtemps, mais il a fallu attendre 1965 pour retrouver les chiffres du Second Empire. Bon, je sais bien que la définition juridique, administrative des dépôts, enfin des titres à la Bibliothèque nationale, était un peu différent au 19e siècle que maintenant. Mais enfin, quand on oppose un âge d'or où les éditeurs n'auraient publié que peu de livres, tous extrêmement bons, à un âge beaucoup plus mercantile où les éditeurs feraient leurs échéances en multipliant le nombre de titres et le nombre d'ouvrages mis à l'office, c'est une vision qui correspond absolument pas à la réalité historique et à la réalité économique de l'édition. Et donc, en fait, en France, si on compare à la publication dans les pays de langue anglaise, de langue allemande, de langue espagnole, et même de langue italienne, même de langue hollandaise, la France ne brille pas par le nombre de titres par habitant. Donc, il vous suffit de prendre des livres parus à la fin du 19e siècle et de regarder les listes du même auteur qui figuraient en général à la fin des livres ou en page 4 de couverture pour s'apercevoir qu'on a publié à cette époque-là des centaines de livres qui ont totalement disparu, dont nous n'avons jamais entendu parler. Et donc là, je crois qu'il y a une fausse analyse. On ne publie pas trop de livres en France, mais on les publie dans des conditions maintenant de précipitation que je trouve très dommageable quand on veut faire des fonds, c'est-à-dire publier un auteur sur des années et des années. Et donc les libraires sont dans un premier temps les victimes d'une situation dont ils sont en même temps les acteurs, donc tout ça est extrêmement complexe, mais il est certain que il y a eu une véritable transformation, une véritable accélération des phénomènes que je suis en train de décrire depuis 10-15 ans.
Thank you.
La librairie et le voyage, la librairie et la déambulation, la librairie et la ville, la librairie et la vie.
Je m'attendais à une petite librairie, à un endroit précieux, réservé à de rares élus. C'est un monument. Monumental par la position et l'ampleur des rayonnages, par les reliures en pleine peau, par l'attitude de gardien, aimable et inamovible de cet homme à lunettes bien habillé. Le ton même sur lequel il dit « Vous désirez ?» empêche de regarder. Il faut demander. Et quand j'ai demandé, la réponse est négative. Non, les livres sur Trieste ou écrits par les Triestins sont les premiers à disparaître. Il semble que même les personnes bénéficient dans ce temple d'une hospitalité très brève. Je voudrais prendre mon temps, je dis « Existe-t-il un catalogue ?» Il secoue la tête. Il ébauche un demi-pas vers la porte. Comme les titres que je recherche n'y sont pas, j'évoque plus généralement le sujet. Il avance encore et dit « Non, rien, essayez donc une librairie qui vend des livres courants. » Sous ce qualificatif de courant, on doit imaginer la misère des livres contemporains, des librairies sans histoire. Il s'agit de trouver sans peine d'entrer, de payer, de s'en aller. À mesure qu'il avance, je me déplace de côté. Quand nous sommes en position presque parallèle, je me replie sur un renseignement concernant mon chemin. Il m'est offert avec enthousiasme, avec une minutie topographique de plan municipal et tous les numéros qu'il faut. En suivant l'homme pour consulter les pages jaunes, je comprends pourquoi l'image du temple est légitime. L'endroit où nous étions, et il ne me faisait pas aller plus loin, un vestibule. Puis un pronaos d'où partent latéralement deux couloirs tapissés d'étagères. Encore plus profondément à l'intérieur, exactement comme dans une petite cellule, la gigantographie d'Umberto Saba, là-haut. Très vieux, menu, habillé de noir, le pas décidé, suspendu à mi-chemin, la canne parallèle à sa jambe est lancée en avant. Au-dessous, une femme en tablier bleu agite un plumeau. Ce n'est pas cela qui trahit le caractère sacré du lieu, plutôt certaines éraflures dans le bois ou les vides sur les dernières étagères. Il y a une couleur générale de papier d'emballage et une odeur équivalente. Alors que je regarde encore, l'homme me donne la main. C'est une empreinte où manque la pression de plusieurs doigts. Au dehors, j'ai donné un dernier coup d'œil aux rares livres exposés avec conviction sur le fond d'un rideau plissé, comme dans les vitrines des coiffeurs. Je poursuis dans des rues droites, selon un plan favorable qui permet de bien compter les rues transversales. J'ai reconnu une librairie courante. Je me suis pratiquement contentée d'entrer et de sortir. Mais j'ai bénéficié d'une indication supplémentaire et je m'y conforme en descendant vers la mer. Je suis maintenant dans une autre librairie, impression générale d'un vendu. Plusieurs livres, sans le moindre air de condescendance. Le libraire, avec sa corpulence massive et son pull à col en pointe sur un autre ras du cou, ressemble même plutôt à un marchand d'armes. Un stock important, c'est là le véritable héroïsme d'un libraire. Des collections entières, non pas anciennes, mais vieilles. Je lui ai demandé deux titres. Il a grimpé un étage supérieur où, malgré la familiarité de ce décor, je ne puis être admis. Au bout d'un moment, il redescend avec le livre, paru il y a une trentaine d'années. Sur la couverture, il y a une photographie de l'auteur, qui semble être coloriée à la main, blond, les cheveux lisses coiffés en arrière, lunettes et cravates, et sur le cou une ride circulaire. Je conviens avec le libraire d'un prix conventionnel, en tout cas inférieur à celui d'un livre qui paraîtrait aujourd'hui. Je me suis rapprochée d'un rayon qui porte la plaque « Trieste ». Il n'y a pas la revue qui contient l'article de cet écrivain femme, mais un de ses recueils d'études. Et c'est là que se trouve l'article. Le libraire s'est mis à nettoyer le parquet. Je lui ai montré le livre de son côté. En tapotant le nom de mon index, je dis « Elle est encore vivante ?» Il s'est relevé en laissant son frottoir. Il jette un coup d'œil à la couverture, puis il dit « Oui, je crois que oui. Elle est chez les incurables, on lui rend visite. » Thank you.
gagnez bien votre vie ?
Moi, ça me satisfait pleinement, mais ça me suffit, voyez. Mais je travaille quand même 6 jours par semaine, vous voyez. Et facilement, quand quelqu'un est absent de 10 heures le matin, 10 heures le soir. Alain, qu'est-ce qu'il y a ? Ah.
Le problème des libraires, c'est aussi le remplacement. Vous êtes drôlement bien situé.
Oui, on est bien situé. C'est pour ça que, absolument, je suis bien de votre avis, mais je ne sais pas, d'une part, si nous allons pouvoir rester, puisque, bon, on a un problème de renouvellement de bail.
Et d'autre part, vous n'êtes pas propriétaire.
Ah non, malheureusement. Et d'autre part, c'est un problème qui va se poser petit à petit à tous les libraires bien placés, à savoir qu'on va leur demander des loyers, le loyer qu'on peut demander à un fast-food ou n'importe quel magasin qui rapporte beaucoup et qu'ils ne pourront pas y faire face. Ça, c'est moi, c'est là où le point difficile. Et oui, c'est une enclave culturelle. Et si on les supprime, des endroits de passage, il m'arrive que quand je suis exaspérée quelquefois, je me dis, mais il va falloir mettre tous les libraires dans des ghettos, des rues périphériques où il n'y a personne, dont personne ne veut. Alors là, bon, mais c'est ça le problème grave quand même. Quand on est dans un endroit isolé, bon, il y en a toujours qui viennent. Mais pas assez, c'est toujours les mêmes, on tourne en cercle fermé. Tandis que là, il y a quand même une relation, une ouverture.
C'est un peu un cœur, une librairie.
Un cœur, si on veut, oui.
Un cœur qui...
qui bat, oui.
Nuit magnétique, les libraires, ce soir, seconde émission, La Vite Libraire avec Pierre Pin, Bernard Guillemot, Georges Dupré, Françoise Sorel, Bernard Wallet, Catherine Martinzé, Jérôme Lindon, Henri Cos, Christian Bourgois et Marie-Madeleine Chan. Texte d'Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur, Seuil, Daniel Del Giudice, Le stade de Wimbledon, Rivage. Merci à Françoise Trossard, Noélie Louis-Marie, Philippe Destrebecq, Arnaud Laporte, Jean Couturier, Laure Adler. Nuit magnétique, bonsoir. Thank you.
Cette émission a été diffusée la première fois le 20 avril 1988 sur France Culture. À suivre, téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.